Il est 19h. Le journal, c'est vous, Pierre Veil. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir, Fabienne. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, la fermeture semble-t-il inéluctable de l'usine Ford de Blanquefort et ses 800 salariés. Ultimes arbitrages en ce moment à Bercy, au ministère de l'économie. Nous y serons dans un instant. Bruno Le Maire fustige l'attitude indigne de Ford. Le gouvernement qui envisage de réviser à la baisse les règles des allocations chômage des cadres. Colère des syndicats de cadres. Le procès Nemouche à Bruxelles. L'accusation énumère des dizaines d'éléments à charge contre ce Français jugé pour la fusillade du musée juif de Bruxelles. La crise au Venezuela, réunion en Colombie des pays hostiles à Nicolas Maduro. Les participants veulent une solution pacifique et parient sur les pressions économiques pour faire partir le président vénézuélien. À Toulouse, 14 personnes blessées par la police lors des manifestations de Gilets jaunes déposent plainte. Au salon de l'agriculture, l'écologiste Yannick Jadot plaide pour une Europe des terroirs. Et puis, quel avenir pour les océans ? Publication d'une étude du CNRS, 360 millions de kilomètres carrés menacés par le changement climatique. Détail dans ce journal. Au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, ce soir, on parle des agriculteurs qui sont tous ou presque, c'est bien connu, des pollueurs, des empoisonneurs au service de Monsanto qui poussent à la consommation d'animaux abattus dans des conditions épouvantables. Vous trouvez que c'est carrément caricatural tout ça, évidemment. Mais même le ministre parle de l'agribashing quand nos problèmes de pollution de pesticides, c'est forcément leur faute. Passer bio, au fait, est-ce que c'est vraiment si simple? Changer les modes de production, est-ce que c'est si simple? On en parle au 01 45 24 7000.
France Inter. Le constructeur Ford a donc confirmé qu'il refusait la dernière offre de reprise pour son usine de Blanquefort près de Bordeaux, celle de Punch Powerglide. Ford continue de privilégier un plan social pour les 800 salariés du site. La fermeture prochaine de l'usine semble désormais très probable. Une réunion se tenait cet après-midi à Bercy au ministère de l'économie sur ce dossier Ford-Blanquefort. Delphine Simon, vous êtes sur place. Bonsoir Delphine.
Bonsoir.
Est-ce que cette fermeture de l'usine est définitive? Entériné.
Oui, la fermeture de Ford Blanquefort est désormais inévitable. Les syndicats et le ministre de l'économie tous prennent acte ce soir à l'issue de cette réunion. La seconde offre de reprise de l'industriel franco-belge Punch devait permettre de sauver la moitié des emplois, mais elle ne présentait pas toutes les garanties en termes de carnet de commandes. C'est donc l'échec du plan de sauvetage élaboré avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire, très déçu.
L'attitude qu'a eue Ford, qui est présent depuis 1971 sur le site de Blanquefort, est indigne d'un grand groupe industriel. Il y avait un repreneur solide, Punch, il y avait des commandes possibles derrière, il y avait des salariés qui étaient motivés. Ford a fait ce choix, incompréhensible et injustifiable. Ford doit payer pour le site et garantir la dépollution du site. Et Ford doit payer pour le territoire en amenant les fonds nécessaires à la réindustrialisation du site de Ford Blanquefort.
Il reste maintenant à chiffrer la revitalisation du site au-delà de l'usine. Ce sont des milliers d'emplois induits qui sont menacés. Or, toute activité industrielle perdue est très, voire impossible à recréer, explique le délégué CGT de Ford, Philippe Poutou.
L'usine devrait fermer. La seule solution qui nous reste, c'est la revitalisation. Mais la revitalisation, c'est du pipeau. Tout le monde le sait. Dans tous les sites qui ont fermé, la revitalisation, c'est quasiment pas d'emploi, ou très peu. En tout cas, ça ne se voit pas. Mais la bataille pour nous continue, pour essayer de sauver quelque chose, de manière à ce qu'il y ait une activité, et que même nous puissions être préservés avec les machines, les compétences, le savoir-faire, les structures.
Quant à l'industriel américain, il estime que son plan de sauvegarde de l'emploi offre plus de garanties aux salariés. L'administration doit maintenant donner son avis sur le plan social d'ici quelques jours.
Delphine Simon au ministère de l'économie avec les moyens techniques d'Yves Lehors.
La colère des cadres.
Oui, le gouvernement donnera demain des précisions de calendrier et de méthode sur la suite de la réforme de l'assurance chômage revenue entre les mains de l'exécutif après l'échec de la négociation entre les partenaires sociaux. Alors pour faire des économies, le gouvernement envisagerait une dose de dégressivité dans les allocations chômage des cadres ou alors de plafonner davantage leur indemnisation. Réaction très hostile de François Omeril, le président de la CFE-CGC, syndicat des cadres, au micro d'Hélène Philly.
C'est vraiment du populisme, c'est-à-dire que le gouvernement qui est incapable de s'attaquer véritablement au problème, Les problèmes, quels sont-ils? Ce sont des problèmes de pouvoir d'achat, c'est un problème de déclassement des salaires. Eh bien, ils cherchent des boucs émissaires sur le sujet de l'assurance chômage pour se défausser de ne pas trouver les bonnes solutions. Eh bien, l'État désigne du doigt une catégorie professionnelle particulière qui se trouve être la plus grosse contributrice à l'équilibre du régime. Et donc, c'est de la discrimination que de vouloir les en exclure. C'est très très grave ce que fait l'État, c'est vraiment du populisme, c'est s'attaquer à ce qui fait cohésion dans la société. Et je trouve ça un peu culotté, au bout de 2 mois de troubles sociaux quand même relativement importants, qu'est-ce que cherche l'État? Est-ce qu'il veut peut-être qu'il y ait plus de membres de l'encadrement sur les ronds-points demain? Je ne sais pas, je ne comprends pas.
Une avocate toulousaine a déposé cet après-midi 14 plaintes auprès du procureur de la République pour violence policière, dans un cas ayant entraîné notamment une infirmité, un manifestant éborgné fin décembre. Toutes ces blessures ont été subies en marge des manifestations de Gilets jaunes le samedi à Toulouse depuis le 1er décembre. Des manifestations qui ont à chaque fois dégénéré. Et sans surprise, les blessures les plus graves ont été provoquées par ces tirs de LBD, les lanceurs de balles de défense. À Toulouse, Alain Gastal.
Parmi les 14 blessés, la plupart le sont légèrement, mais 3 cas sont plus graves. Une fracture de la mâchoire après un coup de matraque et 2 blessures qui semblent émaner de tirs de LBD à la face. Un manifestant a ainsi perdu un œil fin décembre et un second a été touché à la tempe. Benoît, 29 ans, ébéniste, a subi un coma de plusieurs jours après le 1er décembre. Il n'a toujours pas repris le travail.
Je trouve que c'est une arme trop violente. Je vois le jeune homme qui a été éborgné. Lui, c'est quand même une infirmité totale, quoi. Moi, je vais m'en sortir, quoi. Voilà, je vais avoir des séquelles. Mais ouais, il faut vraiment retirer cette arme. Il faut, je pense, aussi revoir la formation des policiers pour qu'ils adaptent en fonction des gens qui sont en face d'eux.
La quasi-totalité des blessures interviennent après des manifestations non déclarées qui ont dégénéré en violence. Et alors que la dispersion de fête a eu lieu parfois depuis longtemps, c'est aussi dans ces conditions que David a été frappé avant tiers d'un coup de matraque alors qu'il filmait des policiers en train de lancer des lacrymos.
Il a vu que je le filmais, il s'est mis derrière moi, m'a pris mon téléphone, l'a explosé par terre. J'ai demandé à ce que mon téléphone me soit rendu. Un d'entre eux a pris le téléphone, a voulu me le rendre, mais 2 autres m'ont poussé avec le bouclier et m'ont frappé sur le crâne. Donc avec une force très importante puisque j'ai 12 agrafes là sur le crâne.
Toutes les plaintes seront étudiées, a dit récemment le procureur de la République. L'IGPN a également été saisi par les plaignants. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
Fabienne.
Oui, le président irakien Barem Saleh, Pierre, est en visite à Paris.
Absolument, il a rencontré Emmanuel Macron à l'Elysée, au centre des discussions, bien sûr, la défaite militaire de l'État islamique en Irak en ce moment. Et lors d'une conférence de presse, il a annoncé que 13 djihadistes, accusés d'être des combattants du groupe État islamique, ont été remis par les forces arabo-kurdes de Syrie aux autorités irakiennes. Il pourrait s'agir de Français. Alors, quel sera leur sort désormais? Où seront-ils jugés? La réponse du président irakien.
Nous avons capturé 13 combattants de Daesh au cours d'une opération sécuritaire et ils ont été remis aux autorités irakiennes. Ils sont accusés d'avoir commis des crimes contre des Irakiens, contre des installations irakiennes en Irak. Et donc ils seront jugés conformément à la loi irakienne et c'est cela que reconnaît le droit international et c'est dans ce cadre que nous opérons dans ce genre de dossier.
Et alors étrangement, aux côtés du président irakien, Emmanuel Macron lui est resté très évasif, refusant de confirmer que ce sont bien des djihadistes français qui ont été remis aux Irakiens par les FDS, les forces arabes aux Kurdes de Syrie.
Les FDS ont d'innombrables prisonniers qui ont été constitués durant le conflit et qu'ils gèrent au mieux de leurs capacités dans le nord-est syrien. Et les échanges avec les forces de sécurité irakiennes font partie des relations bilatérales qu'ils entretiennent avec l'Irak dans le combat contre l'ennemi djihadiste. Dans ce contexte-là, les décisions qui ont été prises n'ont pas à être commentées. Je n'ai pas à confirmer l'identité de tel ou tel. Pour les Français majeurs détenus ou qui seraient transférés, ils relèvent d'abord des autorités de ce pays à qui il revient de décider souverainement s'ils doivent faire l'objet de procédures judiciaires sur place. Et ces personnes ont le droit de bénéficier de la protection consulaire.
Propos recueillis à l'Elysée par Christian Chesneau. Une quinzaine de djihadistes du Front de Libération du Massina ont été mis hors de combat samedi dans une frappe aérienne de l'armée française au centre du Mali. C'est ce qu'annonce l'état-major des armées françaises. Les militaires français avaient déjà tué jeudi dernier au Mali le numéro 2 de la principale alliance djihadiste du Sahel, l'Algérien Jamel Okacha. En Belgique, le procès de Mehdi Nemmouche, ce Français de 33 ans accusé des 4 assassinats commis au musée juif de Bruxelles en 2014. Aujourd'hui et demain, les procureurs ont la parole. Ils détaillent les preuves recueillies contre lui pour le faire condamner. Nemmouche nie les faits. Il risque la prison à perpétuité. Angélique Bouin a suivi les réquisitions des procureurs aujourd'hui à Bruxelles.
Ce 24 mai 2014, c'était un jour printanier, se souvient en préambule l'un des deux procureurs. Bernard Michel raconte « Je me suis rendu sur les lieux. Ce qui m'a frappé, ce sont les corps et ce silence. Un silence qui marque aussi ces 5 semaines de procès », ajoute-t-il en élevant la voix. Ce silence lâche de Mehdi Nemmouche qui a promis des explications mais qui se tait. Un silence aussi indécent que provocateur pour la mémoire des victimes. Mais la justice se doit d'apporter des réponses, poursuit le procureur, même quand il n'y a pas d'aveu, et de lister 23 éléments de preuve, selon lui, de la culpabilité de l'accusé, les images de la vidéosurveillance avec la silhouette jusqu'au dessin de l'oreille qui concorde, ce témoin qu'il a reconnu à l'audience, la veste bleue retrouvée chez lui avec des résidus de tir, le voyage en Syrie enrichi du témoignage des journalistes otages décrivant un bourreau antisémite, les armes du crime enfin, trouvé dans son sac, élément accablant. La défense promet la vérité sur ses armes. Ce sont des effets d'annonce qu'on vous lance à la figure depuis des mois, s'énerve Bernard Michel en fixant les jurés. Ne vous laissez pas abuser. À Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Et le verdict est attendu début mars.
Il est 19h11 sur France Inter. Ce sera l'une des images fortes de la semaine.
Et oui, la rencontre mercredi et jeudi entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Hanoï au Vietnam. Ce sera leur deuxième tête-à-tête. Le premier avait eu lieu à Singapour en juin l'année dernière. Kim Jong-un est parti samedi de Pyongyang, la capitale de Corée du Nord. Il traverse en ce moment la Chine à bord de son train blindé pour rejoindre la frontière vietnamienne où il est attendu demain mardi. L'heure est tenue secrète. À Hanoï, notre envoyé spécial Dominique André.
C'est une odyssée de 4000 km. Le convoi blindé de Kim Jong-un mettra 4 jours en tout pour traverser la Chine et atteindre le Vietnam. Le train blindé nord-coréen avance péniblement à 60 km/h. Dès son arrivée à la frontière, Kim pourrait faire le reste du trajet en voiture jusqu'à Hanoï. Des militaires vietnamiens sont déployés sur la route qui sera interdite à la circulation demain, ce qui laisse à penser que Kim Jong-un l'empruntera. Le dirigeant arrive avant le sommet pour constater lui-même comment le Parti communiste vietnamien a pu garder le contrôle du pays tout en embrassant le capitalisme. Son programme est secret, mais il pourrait visiter, dit-on, une usine de smartphones Samsung et Haiphong, le plus grand port du Vietnam. Dans la seule maternelle nord-coréenne de Hanoï, les enfants répètent des chants dans la salle Kim Il-sung, grand-père du jeune dirigeant qu'ils espèrent accueillir. Le Vietnam prépare avec fierté ce sommet et espère renforcer son statut international. Hanoï, Dominique André, France Inter.
L'opposant vénézuélien et président autoproclamé Juan Guaido rencontre à Bogota en Colombie en ce moment ses alliés du groupe de Lima ainsi que le vice-président des États-Unis Mike Pence. Objectif, définir des mesures pour contraindre Nicolas Maduro à quitter le pouvoir. Juan Guaido, qu'une 50aine de pays ont reconnu comme président intérimaire, a appelé à envisager toutes les éventualités contre Nicolas Maduro. Les États-Unis ont déjà haussé le ton. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui n'a pas exclu l'usage de la force, a qualifié hier le dirigeant chaviste de pire du pire des tyrans et s'est dit certain que, grâce aux Vénézuéliens, les jours de Maduro sont comptés. À Caracas, notre correspondant Benjamin Delisle.
L'opposition vénézuélienne a perdu son pari samedi en échouant à faire entrer l'aide humanitaire. Mais elle entend bien profiter de la violente répression des soldats toujours fidèles au gouvernement vénézuélien pour accentuer la pression. Contrairement à ce que laissaient entendre les opposants en exil, Julio Borges et Antonio Ledesma, Juan Guaido n'a pas demandé le recours à la force au groupe de Lima. Il a demandé à ce que toute la pression économique et diplomatique soit mise en place. Il s'aligne donc sur les positions chiliennes et péruviennes qui privilégient une solution pacifique à la crise vénézuélienne. C'est ensuite le vice-président américain Mike Pence qui s'est exprimé. Il a annoncé une nouvelle série de sanctions individuelles contre des fonctionnaires proches de Nicolas Maduro. Il a aussi appelé tous les pays du groupe de Lima à geler les actifs de la PDVSA, l'entreprise pétrolière publique vénézuélienne, dans leur pays. Mike Pence n'a pas écarté d'aller plus loin. D'autres sanctions devraient être annoncées dans les jours qui viennent et il a une nouvelle fois cité Donald Trump. Toutes les options sont sur la table pour pouvoir écarter Nicolas Maduro du pouvoir. Caracas, Benjamin Delisle, France Inter.
Le bureau L'enquête britannique sur les accidents aériens a publié un rapport aujourd'hui. Il note que l'avion qui transportait Emiliano Sala et s'était abîmé tué dans la Manche le 21 janvier, entraînant la mort du footballeur argentin, cet avion n'était pas autorisé à opérer des vols commerciaux. Retour en France, Laurent Wauquiez, le président des Républicains, estime que le gouvernement n'a pas défendu notre politique agricole et nos agriculteurs. Pour lui, Emmanuel Macron ment sur ce sujet, propos tenu lors d'une visite ce matin au Salon de l'agriculture. Autre visiteur, porte de Versailles, l'écologiste Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les européennes. Il a plaidé pour une Europe des terroirs face à des agriculteurs parfois sceptiques. Reportage Maxence Lambrecq.
Son discours est bien rodé, Yannick Jadot est en campagne.
Les écologistes sont les meilleurs alliés des paysans et les paysans sont le plus souvent des écologistes.
Ça ne saute pas aux yeux. François, par exemple, éleveur dans le Nord, a du mal avec ses écolos anti-glyphosate.
Ils sont idéalistes. C'est vrai que dans l'idéal, si on pouvait s'en passer, ce serait bien. Mais malheureusement, il faut avoir les pieds sur terre. C'est comme si on dit du jour au lendemain au médecin, vous n'utilisez plus d'antibiotiques. On laisse mourir les patients.
Mais François n'ose pas lui dire en face, alors Yannick Jadot lui répond à notre micro.
Le glyphosate, c'est cancérogène. On ne va pas se refaire l'amiante. À partir du moment où des agriculteurs démontrent qu'on peut s'en passer, il faut que leur recette devienne la norme.
À chaque stand, ici, une touche de vert. Zéro nitrite, circuit court, 100% bio. Face à Yannick Jadot, en fait, tout le monde a l'air écolo.
Ah, oh bonjour, les notaires.
Même alors, les notaires essaient de jouer le jeu.
Je travaille aussi beaucoup sur l'environnement, quoi que vous en pensiez. Voilà. Ah, mais vous me donnez de mauvaises intentions, je n'ai pas de mauvais a priori.
On travaille sur l'obligation à l'environnemental, on travaille sur la biodiversité en ce moment, énormément.
Au final, donc, aucune altercation pour le candidat écologiste qui va intégrer sur sa liste européenne 5 ou 6 paysans, comme il les appelle. Yannick Jadot aimerait que la prochaine réforme de la PAC soit l'un des grands débats de cette campagne.
Maxence Lambrecq, reportage au Salon de l'agriculture. Le parquet de Paris a classé sans suite, après 9 mois d'enquête, la plainte d'une femme, une actrice qui accusait le réalisateur Luc Besson de l'avoir violée à plusieurs reprises. Le parquet précise que les investigations n'ont pas permis de caractériser l'infraction dénoncée. Résistant et ancien député communiste de Seine-Maritime, Roland Leroy, emblématique directeur du journal L'Humanité de 1974 à 1994, est mort à l'âge de 92 ans la nuit dernière. Roland Leroy, on l'entendait régulièrement sur France Inter dans les années 80. Il participait à une émission de débat hebdomadaire avec des échanges souvent très musclés entre lui et Jean d'Ormesson ou Pierre Charpie. Fabienne, vous en souvenez?
Ah ben évidemment. Que va-t-il se passer, j'y étais même. Que va-t-il se passer dans les océans dans les années qui viennent? Quelles espèces vont disparaître ou au contraire apparaître?
Si cet univers est aujourd'hui très méconnu, une équipe du CNRS vient de construire un modèle pour prédire un événement un an avant qu'il ne se produise. Le but est d'identifier les océans à risque où la biodiversité est menacée. Célia Quilleret, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Les chercheurs ont observé des changements sans précédent dans les océans.
Oui, cette équipe du CNRS observe de près les surprises climatiques. Ce sont des changements biologiques rapides causés par le dérèglement climatique. Cette étude est assez rare car les océans qui recouvrent 360 millions de kilomètres carrés sont méconnus. Grégory Beaugrand est directeur de recherche au CNRS. Il constate par exemple que l'océan Pacifique est en pleine évolution.
Récemment, on a observé le premier épisode de blanchiment du corail à Hawaï en 2014. On a également observé une chute de la concentration en phytoplancton et zooplancton dans cette région et une diminution relativement importante des captures de saumons. On a également observé de jeunes lions de mer affamés le long des côtes californiennes. Donc on a observé tout un ensemble de phénomènes dans les endroits où le modèle prévoyait ces changements.
Et en effet, pour cette étude, les scientifiques ont mis au point un modèle d'anticipation qui permet de prédire l'avenir et de voir comment les océans vont évoluer. Ils ont créé un grand nombre d'espèces théoriques qui peuvent supporter des variations de température. Les animaux s'adaptent et peuvent donc coloniser les océans. De la science-fiction, mais en attendant, cette étude montre très clairement que les changements survenus dans les océans s'accélèrent nettement depuis quelques années.
On peut s'attendre à une disparition très rapide en quelques décennies de la morue de l'Atlantique. On a également observé une réapparition du thon rouge de l'Atlantique en Manche et mer du Nord ces dernières années. Ça pourrait être également une diminution drastique du hareng remplacé par la sardine, voire peut-être dans les décennies qui viennent, d'autres espèces telles que l'anchois.
Voilà une étude très utile pour la connaissance de la biodiversité comme pour l'économie de la pêche. 80 millions de tonnes de poissons et d'invertébrés sont pêchés chaque année dans les océans.
L'avenir des océans, enquête signée Célia Quilleret. L'environnement encore avec du pétrole dans des champs en Île-de-France. Quelques 4 à 7 hectares de champs et des rivières dans les Yvelines sont touchés par une fuite d'hydrocarbures sur le pipeline d'Île-de-France. C'est ce qu'annonce Total et la préfecture du département. Des moyens de pompage sont sur place. Les dégâts sont importants, mais localisés. Récit de Nathalie Domenego de France Bleu Paris.
Il est 22h30 dimanche soir lorsque Total reçoit une alerte qui lui indique une baisse de pression sur le tronçon souterrain qui relie un dépôt près de Mantes-la-Jolie à la raffinerie de Grandpuy en Seine-et-Marne. Pendant ce temps, du pétrole brut commence à apparaître à la surface dans les champs de deux agriculteurs sur une commune des Yvelines à côté de Thoiry. 4 à 7 hectares seraient touchés selon le groupe pétrolier, 9 à 12 selon la gendarmerie. Mais pas seulement, des ruisseaux sont également souillés dans les villages voisins. 20 sapeurs-pompiers de la cellule anti-pollution ainsi que des gendarmes et des agents de la DRIEU sont intervenus en urgence. La DRIEU, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie. Il s'agit là de dégâts importants mais localisés, fait savoir la préfecture des Yvelines, qui ajoute que c'est Total qui va se charger des opérations de pompage et le colmatage. Cela pourrait prendre plusieurs mois. En attendant, l'écoulement de pétrole dans la canalisation souterraine a été stoppé.
Et voilà, il est 19h21, c'est la fin de ce journal. Dans quelques minutes, le téléphone sonne avec Fabienne Saintès.
Eh ben absolument, tout pareil. Merci beaucoup Pierre, on se retrouve demain.